Bonsoir. Les conditions sécuritaires sont-elles toutes réunies pour permettre l'organisation des élections en République démocratique du Congo dans la sérénité? Un séminaire sur la sécurisation d'élections a été tenu du 18 au 20 juillet à Kinshasa pour répondre à la question. Le RCD dénonce le détournement de fonds publics. Il accuse le vice-président de l'Assemblée nationale Philomène Omatoukou et le président du Sénat Marini Bodo d'avoir falsifié la loi en modifiant la loi budgétaire 2005, ce qui a prêté le flanc au détournement de plus de 40 millions de dollars générés par le Fonds de promotion du tourisme et l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Une commission mixte de gouvernance en RDC, l'annonce a été faite par l'ambassadeur français en République démocratique du Congo, Georges Serre. Une résolution de conseil de sécurité est en cours d'élaboration pour fixer les modalités d'institution de cette commission. Cet organe mixte sera chargé de contrôler toutes les recettes et dépenses publiques de l'État. Vendredi 22 juillet, les journalistes congolais célèbrent la Journée nationale de liberté de presse. Quel est l'état des lieux de métier du journalisme à la veille des élections en RDC? C'est là la question qui sera soulevée dans ce Dialogue entre Congolais, tribune de presse. Chaque vendredi, vous le savez, Dialogue entre Congolais revient avec analyse sur le point d'actualité qui a dominé la semaine. Dans ces studios de Radio Okapi, nous avons John Ngumboa, journaliste à Antenne A, une chaîne audiovisuelle à Kinshasa. Et en ligne, nous aurons Hilaire Akolo, journaliste à la Radio Bush, une radio de Cape Town en Afrique du Sud. Lundi prochain, la CEI lance dans la province orientale, comme dans le Bas-Congo, l'opération d'enrôlement et d'identification. L'Ituri, dans cette province, reste la zone d'inquiétude pour cette opération électorale. Certains milices restent encore actifs sur le terrain. Un séminaire sur la sécurisation a été tenu à Kinshasa pour trouver des solutions pour la sécurisation des élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. John Gombo, vous êtes à Kinshasa, vous avez aussi suivi cette actualité. Pensez-vous que la sécurisation des élections en République démocratique du Congo constitue une inquiétude légitime?
Oui, tout à fait, Franca. C'est une inquiétude fondée, ne serait-ce que dans la mesure où le Congo est un état post-conflit, avec tout ce que cela peut signifier comme conséquence. Et sans oublier aussi que les candidats aux élections seront pour certains d'entre eux les anciens belligérants, et que si d'aventure ils ne parvenaient pas à avoir gain de cause, ils risquent de recourir aux moyens armés qui leur ont permis d'en arriver à ce niveau-ci de l'État. Vous savez, quand vous chassez les naturels, ils reviennent toujours au galop.
Vous venez de dire que c'est une inquiétude légitime, mais quels sont les points qui, en République démocratique du Congo, constituent des zones d'inquiétude, par exemple, pour les opérations électorales en cours?
Il y a deux menaces essentiellement, à mon avis. Une menace extérieure à l'organisation des élections et une menace intérieure. La menace extérieure ici, c'est en fait l'attaque, par exemple, d'un centre de vote par des gens armés qui voudraient soit disperser, soit semer les désordres ou récupérer les urnes. Ça, c'est un premier aspect, une menace venue de l'extérieur.
On est encore au stade d'opération d'enrôlement et d'identification. Lundi prochain, ça serait le tour de la province orientale. L'Ituri reste la zone d'inquiétude. Les milices armées sont encore actives. Certains milices sont réfractaires au désarmement. Est-ce que vous pensez que les dispositions telles que prises au niveau de l'État congolais pourraient essayer d'endiguer le danger, de permettre justement que cette opération électorale se passe dans de bonnes conditions?
Oui. Moi, je crois que pour une fois qu'on s'y prend à temps dans ce processus ici, il est possible que, d'un moment venu, l'opération vote puisse être suffisamment sécurisée en termes des agents de police, en termes des militaires de l'armée qui pourront être déployés dans le lieu où vont se passer les opérations de vote. Mais pour cela, je crois qu'il y a une stratégie qui est en train d'être examinée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, avec la police, l'armée et je crois aussi la MONUC et d'autres services afférents à cette disposition, à ces dispositifs sécuritaires. Bon, seulement, il y a un problème, moi, à mon avis, qui m'inquiète à ce niveau-ci, c'est que il faudrait, d'une part, que l'argent, parce qu'il y a de l'argent qui a été déboursé au bénéfice, j'imagine, de cette opération, et surtout aussi des agents militaires, police, qui seront consignés à ces tâches. Il faudrait que cet argent leur parviennent en termes de primes, en termes de soldes, je ne sais pas comment. Bref, que ceux qui seront consignés à la sécurisation puissent avoir la motivation nécessaire. Sinon, on risque encore de connaître le problème que nous avons connu, c'est avec l'armée et la police, n'ayant pas reçu leurs soldes, ils se sont soulevés contre la population, ainsi de suite. Donc il faudrait qu'on veille, à mon avis, à l'agent premier dans cette sécurisation. L'agent premier demeure les policiers et les militaires qui seront consignés à cette sécurisation.
Un séminaire sur la sécurisation des élections a été tenu ici à Kinshasa de 18 au 20. Qu'avez-vous vu, comment avez-vous jugé justement ces séminaires et surtout les résolutions issues de ces séminaires?
Bon, pour l'essentiel, je crois que c'est des résolutions à ce niveau-ci qui paraissent cadrées avec l'objectif. Quand bien même nous soyons en attente, qu'on soit encore dans l'expectative quant à leur application. Mais pour ce qui est de l'objectif, à savoir sécuriser l'opération élection, je crois qu'à ce niveau-ci, il n'y a pas de choses à redire. Le séminaire est arrivé à point nommé. Les différentes recommandations cadrent avec l'objectif, mais tout le problème, c'est maintenant l'application. Vous savez, au Congo, il y a énormément de séminaires, mais qui se terminent souvent dans des farbes classées et tout. Maintenant, le reste du problème, c'est l'application. Et pour cela, j'aimerais, moi, que cette application ne s'efface pas seulement en fonction d'une seule structure, que jusqu'à l'exécution de ces différentes recommandations, il y ait toujours plus d'une structure impliquée. Comme ça, il y a une possibilité de pouvoir assurer un contrôle de l'exécution des recommandations arrêtées.
Je vous rappelle que John Gomboy, qui intervient tout à l'heure, journaliste à l'antenne à Kitton Kinshasa pour l'Afrique du Sud, au Cap Town, Hilaire Akolo, qui participe aussi avec nous dans cette tribune de presse, vous intervenez depuis l'Afrique du Sud. Dites-nous comment vous, au niveau de l'Afrique du Sud, vous voyez les déroulements des opérations électorales en RDC, les conditions sécuritaires ne risquent pas d'enfreindre justement le bon déroulement de ces opérations.
En fait, pour nous ici en Afrique du Sud, la vérité c'est que ça ne fait pas un trop grand, n'est-ce pas, bruit. Mais je sais déjà qu'il y a eu beaucoup de négociations entre le gouvernement sud-africain et M. Kabila, qui est venu plusieurs fois ici. Et je crois en Afrique du Sud, nous avons, et le gouvernement, surtout en sud-africain, n'est-ce pas, compte beaucoup sur la démocratie et nous espérons bien que tout se passe bien en Afrique, je veux dire au Congo démocratique, et que qu'il y ait une commission électorale qui puisse être à la tâche.
Mais la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo dans cette période post-conflit, est-ce que cela donne des raisons d'espérer la tenue normale et dans la sérénité de toutes les opérations électorales telles que vues en Afrique du Sud?
En tout cas, M. Kabila et toute sa délégation, ils sont venus en Afrique du Sud plusieurs fois et ils ont eu des négociations avec le gouvernement sud-africain qui était, n'est-ce pas, dirigé dans la voie de pas seulement la réconciliation nationale, mais aussi la voie de la paix. Et ça fait donc, en parlant de la tenue des élections, n'est-ce pas, c'était en fait un point culminant des négociations, dans la mesure où M. Kabila avait affirmé au gouvernement sud-africain qu'il avait pour mission et pour objectif, n'est-ce pas, de remettre la paix et la démocratie, de ramener la paix et la démocratie à la République du Congo démocratique.
Le RCD dénonce les détournements de fonds publics. Il accuse la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Philomène Omatoukou, et le président du Sénat, Marine Ibodo, d'avoir falsifié la loi budgétaire 2005, ce qui a prêté le flanc aux détournements de plus de 40 millions de dollars générés par le Fonds de promotion du tourisme et l'Autorité de régulation de postes et télécommunications. Cette actualité aussi a dominé les commentaires et les analyses de la presse chinoise ici à Kinshasa. John Gomboa, on rentre encore ici. Comment vous avez vu cette conférence de presse de RCD qui dénonçait justement les différentes personnalités, ici les cas de Marine Ibodo et de Philomène Omatoukou, d'avoir falsifié en fait la loi budgétaire?
Je crois que le RCD nous aura habitués à ce genre de déclarations qui, parfois, met à nu des réalités insoupçonnées dans la gestion de la chose publique. C'est ce qui est aujourd'hui, disons, à l'actif de ce parti politique. Bon, quitte à savoir aussi quels sont les dividendes politiques que compte en tirer le RCD. Évidemment, ça, c'est un commentaire que je fais dans la mesure où cette affaire aurait pu être moins dramatique qu'elle l'a paru. Et on était à la limite d'une crise dans le fonctionnement des institutions avec le vice-président de la République qui avait failli faire des déclarations fracassantes au sujet de cette affaire. Et mon Dieu, je ne sais pas si on a pu éviter une autre tension. Mais il y a quand même, certes, beaucoup de zones d'ombre dans le comportement plutôt de la vice-présidente de l'Assemblée, Madame Omatoukou de l'Assemblée nationale, et puis du président du Sénat, Monseigneur Marigny, qui ont, à mon avis, par leurs attitudes, prêté flanc à ce genre de propos qui n'étaient pas du tout faits pour arranger l'évolution de la transition qui est quand même qui évolue de façon assez délicate. Et donc, il y a des zones d'ombre d'une part et d'autre part aussi un malentendu qui aurait pu être traité de façon moins dramatique, quoi.
Parlons justement de ce problème-là, de ce problème lié à la modification de la loi budgétaire 2005. L'attitude telle qu'adoptée par le président du Sénat, Marine Ibodo, et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Philomène Omatoukou, cette attitude-là a donné lieu justement à ces genres de déclarations dans la mesure où ils ont dû modifier les termes de la loi sans pour autant convoquer ou tenir informée la plénière de l'Assemblée ou du Sénat.
Tout à fait. Je pense que là, ils ne sont pas excusables. On ne peut pas remplacer une loi. On ne peut remplacer une loi que par une autre. Monsieur le président du Sénat, Monseigneur Marigny, et Madame la vice-présidente ont voulu corriger une loi, selon leur propre acception, par une lettre. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Bon, cependant, Monseigneur Marigny affirme dans son explication que les recettes, plutôt, qu'il faille faire la différence entre les fonds de promotion touristique et l'Office national du tourisme, l'Office national du tourisme qui souscrit au budget, mais qui reçoit son financement du fonds de promotion touristique. Et c'est les fonds qui ne doit pas émarger, qui ne doit pas émarger au budget, au trésor public. Mais moi, je trouve que c'est quand même assez alambiqué. Ça cache mal une intention de vouloir de tourner les recettes du trésor, en fait, les recettes du budget, à d'autres fins, à d'autres fins. Même quand bien même il y ait effectivement déjà des antécédents dans l'exécution ou dans l'affectation de cet argent qui était destiné avant à autre chose.
Le président du Sénat et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, pour eux, en tout cas pour la vice-présidente de
Ça va,
l'Assemblée
la présence
nationale, c'est certains députés ou certaines personnes au sein de l'Assemblée nationale, sous influence de certains ministres, le ministre des Finances était particulièrement cité, avaient mené des démarches pour justement changer les libellés de la loi telle que votée au préalable au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne voit pas là qu'effectivement la machine législative congolaise n'est pas encore assez blindée contre ce genre de manipulation et de manœuvre?
Non, parce que la preuve, c'est que s'il y avait cette tentative, elle n'a pas abouti. Je crois que dans les avantages du 1 plus 4, c'est aussi le fait que il y a peu de gens dans la formulation, dans la structure actuelle des institutions qui puissent, de par eux-mêmes, pouvoir faire gérer la chose publique de façon discrétionnaire. Ça, au moins, c'est quelque chose à mettre à l'actif du 1 plus 4. La preuve, c'est que cette histoire a semblé être menée par une tendance politique de façon exclusive. Et voilà ce que ça a donné. Si peut-être le ministre des Finances, lui, pouvait cautionner, ça, je ne l'affirme pas, mais il y a le ministre du Budget qui n'était pas dans le jeu. Il y a si la vice-présidente de l'Assemblée nationale a été impliquée dans cette affaire. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas marché. Et hier, il y a le rapporteur général de l'Assemblée nationale qui a publié un communiqué. En fait, c'est une autre guerre de communiqués où un camp publie un communiqué et un autre communiqué. Et donc, il est quand même.
Quelle était la teneur du communiqué
Mais
publié
en fait,
par le
le
rapporteur de
communiqué
l'Assemblée
rappelait
nationale?
qu'il n'y avait pas une autre loi budgétaire qui avait été votée et que c'est la loi budgétaire en vigueur qui le demeurait et que les recettes de la RPTC et les recettes de l'ENT étaient toujours considérées comme émargeant du budget de l'État et que si il y a une restitution, cela se fera dans des termes déjà déterminés au bénéfice de la RPTC, au bénéfice de la Poste, de l'OCPT, ainsi de suite.
Donc, on voit là que le bureau de l'Assemblée nationale se détache, se désolidarise de la position de Philomène Omatoku, la vice-présidente, qui elle, pense qu'il faudrait détacher l'autorité de régulation de postes et télécommunications et le fonds de promotion de tourisme de trésor public.
Absolument. C'est clair et net que le président de l'Assemblée nationale et le rapporteur général, qui est d'ailleurs habilité et qui sont habilités à engager les parlements, ne marchent pas dans cette affaire dans la même logique que la vice-présidente et le président du Sénat. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux donc.
Quittons le studio de Radio Okapi pour l'Afrique du Sud. Hilaire Akolo, vous venez là d'entendre John Gomboy ici qui faisait des analyses par rapport à la conférence de presse du RCD où le président du Sénat et la vice-présidente de l'Assemblée nationale congolaise ont dû modifier la loi pour justement détacher certains organes générateurs de recettes de trésors publics. Alors, vous êtes en Afrique du Sud, comment vous voyez justement, par exemple, le comportement des politiques congolais quant à ce qui concerne la gouvernance, la gestion?
Non, mais tout à fait, c'est aberrant et c'est inadmissible, n'est-ce pas, que le président du Sénat et de l'Assemblée nationale puisse faire des choses comme ça. Surtout, nous vivons en Afrique du Sud et c'est dans des situations telles que celles-là que le vice-président de la République d'Afrique du Sud, M. Zuma, a été déposé dernièrement pour des allégations. Ce n'était même pas encore la corruption. Des allégations n'étaient pas des corruptions, tout simplement parce qu'il était lié à quelqu'un qui était corrompu. On l'a déposé sans même l'avoir écouté. Il n'avait commis aucun crime contre l'argent de la République, mais il avait été déposé. Ça fait donc une histoire comme celle-là où le président du Sénat et son acolyte se permettent, n'est-ce pas, de détourner la loi. Et alors, qu'est-ce que M. Kabila fait? Nous sommes en train d'aller au Congo, n'est-ce pas? Nous sommes à quelques jours des élections. Et s'il a besoin de gagner la Côte d'Ivoire, je crois qu'il doit, n'est-ce pas, prendre action. Il est hors de question, n'est-ce pas, que ils puissent se dire, bon voilà, c'est des anciens combattants, des luttes ou quoi que ce soit, ça fait changer leur relation. Je ne sais pas si la base de quoi, n'est-ce pas, ils ont décidé, ils avaient décidé de les mener à ce poste. Mais je crois que là, c'est vraiment inadmissible.
Un parti politique, une composante au pouvoir, le RCD, dans une conférence de presse, non seulement dénonce, mais aussi accuse les autres membres du gouvernement de certains faits. Est-ce que cela ne dénote-t-il pas qu'il y a encore des conflits internes au sein des institutions, des conflits qui risquent aussi d'emboîter le bon déroulement de processus de transition en RDC?
Tout à fait, tout à fait. Et là, je suis tout à fait. S'il y a déjà, n'est-ce pas, il y a des conflits internes qui ne peuvent pas se régler, qui ne peuvent pas se régler de la sorte. Je suis tout à fait d'accord que le parti au pouvoir puisse dénoncer des membres, d'autres membres, tout comme le parti de l'opposition peuvent le faire. Mais ça ne suffit pas seulement de dénoncer ses membres ou bien de leurs actions, mais il faut aussi que le régime en place et sur place puisse, n'est-ce pas, agir là-dessus. Si on constate qu'il y a, n'est-ce pas, des actions malencontreuses, n'est-ce pas, qui avaient été causées par ces membres du parti, alors il faut, n'est-ce pas, qu'on agisse là-dessus.
Voilà, je rappelle que Hilaire Akolo, qui intervient dans cette tribune de presse, journaliste à la radio Bush, qui est une radio de Cape Town en Afrique du Sud. Troisième sujet de ce dialogue entre Congolais, une commission mixte de gouvernance en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par l'ambassadeur français en République démocratique du Congo, Georges Serre. Une résolution de conseil de sécurité est en cours d'élaboration pour fixer les modalités d'institution de cette commission. Cet organe mixte sera chargé de contrôler toutes les recettes et les dépenses publiques de l'État. John Gomboa, en rentre ici au studio. Cette commission mixte de gestion ne signifie en d'autres termes que une tutelle financière de la République démocratique du Congo.
Enfin, je voudrais d'abord, Franklin, qu'on puisse apprécier le contexte de cette déclaration. La déclaration a été faite par l'ambassadeur de France le 14 juillet, qui, comme on le sait, c'est la prise de la Bastille, la fête nationale de la République française. Et donc, dans son discours des circonstances, le français Georges Serre a parlé du Congo. Et en quels termes? Je pense que évoquer aujourd'hui une atteinte à la souveraineté de l'État, c'est peut-être pas avoir tout le contour de ces problèmes. Je schématise. La communauté internationale, les étrangers, appelons-le comme ça, donnent de l'argent au Congo, aux Congolais, pour les bénéfices des Congolais. Et les Congolais qui reçoivent cet argent, les détournent. Et pour que l'argent ne profite pas aux Congolais. Mais vous croyez que dans cette perspective, les étrangers qui donnent l'argent pour qu'il arrive aux Congolais, eux, ça fait leur affaire. En fait, moi, pour moi, c'est une interpellation. C'est davantage une interpellation. Moi, je suis étonné que cette déclaration soit passée comme ça, sans que nos dirigeants aient pris le temps de s'arrêter. Parce qu'en fait, pour moi, c'est l'un des plus graves discrédits des gestionnaires de la chose publique. On leur a dit, monsieur, vous êtes des détourneurs. C'est clair et net. Vous êtes des détourneurs. Et c'est pour cela que il y a maintenant, on donne l'argent et puis on suit pour qu'on se rassure que l'argent qu'on va donner pour le Congo ne va pas rentrer dans les poches des privés. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'orgueil à faire, il n'y a pas de chauvinisme à faire dans cette matière. Plutôt, il y a une interpellation pour nous, Congolais, pour les acteurs politiques congolais, pour les dirigeants congolais qui... une interpellation sous deux aspects. D'abord, les dirigeants congolais doivent aimer son peuple et travailler à son bénéfice, d'une part. Et d'autre part, les dirigeants congolais doivent bien se convaincre qu'il n'y a pas mieux que la bonne gouvernance si seulement il veut que le pays se développe.
On attend maintenant plus que la résolution du Conseil de sécurité pour l'institution de cette commission mixte. Mais pourquoi pas justement redynamiser certains organes de contrôle, de gestion que nous avons déjà dans le pays. Nous avons la Cour de compte, nous avons le Parlement, nous avons l'Inspection générale des finances. Est-ce que la bonne gestion ne pourrait pas passer aussi par un contrôle efficace, d'où la nécessité de redynamiser ces appareils de contrôle déjà existants au lieu de créer une commission qui inclurait en réalité les étrangers dans la gestion des affaires publiques?
Oui, j'estime que les étrangers aujourd'hui, nous les avons énormément dans ces pays. Et d'ailleurs, je crois, mon Dieu, que si ce Congo semble un temps soit peu marcher, c'est peut-être parce qu'il y a la pression de la communauté internationale. Parce que si on avait laissé faire les Congolais eux-mêmes, on n'en serait même pas à cette étape ici d'identification et d'enrôlement. Ceci étant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas raviver les structures qui existent? Mais est-ce que vous avez vu le parcours de l'argent? Quand l'argent, y a un financement au bénéfice du Congo, vous savez par où il passe. Mais il passe par les endroits où on ne peut pas en présenter facilement les traces. Les structures comme la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes n'est pas bien aimée parce que elle va mettre sur la place publique les magouilles qui s'effectuent. Parce qu'il y a une magouille organisée et concertée dans ces pays-ci où on prend l'argent public. Et donc, ces différentes structures ne peuvent pas être ravivées parce qu'elles vont mettre sur la place publique les détournements monstrueux qui s'effectuent.
Mais pourquoi pas la communauté internationale pourrait exiger cela et donner son appui justement pour la redynamisation
Oui, mais
de quelques structures existantes?
parce que le problème, c'est un problème de fond ici. C'est un problème de fond. L'État congolais ne fonctionne pas normalement. Ça, c'est sûr. Alors, demander à ce que ces structures-là puissent être ravivées et rentrer dans leur fonctionnement normal risque de prendre du temps. Entre-temps, il reste moins d'une année d'ici la fin de la transition. Je crois que ici, c'est du point de vue pratique. Pour être plus efficace, autant entre raviver les structures de contrôle et assurer un contrôle par l'étranger, c'est plus pratique de le faire avec la pression étrangère parce qu'on s'est rendu compte que c'est finalement celle qui est la plus efficace parce que même au Parlement, on s'en est rendu compte. Il y a énormément de contradictions au Parlement sur une question aussi claire que le respect d'une loi votée par un Parlement. Comment est-ce qu'on peut trouver autant de contradictions? Et donc, si on laisse ces gens à eux seuls pouvoir gérer, pouvoir faire le contrôle, soit de deux choses l'une, ou ils vont se mettre tous ensemble pour pouvoir bien détourner, ou ça sera la discordance totale et on risque d'arrêter les processus. Donc, il faut faire vite.
Dialogue entre Congolais, chaque vendredi, vous le savez, revient sur le point important de l'actualité de la semaine. Nous avons dans ce studio de Radio Okapi, John Gomboua, journaliste à Antenne A, quittant le studio de Radio Okapi pour l'Afrique du Sud. Hilaire Akolo participe aussi avec nous dans cette tribune. Hilaire, vous venez d'entendre, la communauté internationale est en voie de prendre des mesures pour instituer en RDC une commission mixte pour contrôler la gestion des finances publiques. Les étrangers, donc, avec les Congolais, pourront contrôler les entrées et toutes les dépenses de l'État congolais. Est-ce qu'en Afrique du Sud, ça ne touche pas là, le sens des nationalismes et de la non-ingérence?
Non, mais c'est tout à fait, pour commencer, j'ai d'abord un commentaire, c'est tout à fait dommage, n'est-ce pas, qu'après pratiquement 50 années d'indépendance, nous soyons encore, n'est-ce pas, traités comme des enfants. Mais il y a aussi que c'est pour nous qui venons de l'Afrique centrale et de l'Ouest et de l'Est, c'est de notre faute. Et je crois que c'est aussi parce que il n'y a pas un système d'impunité, il y a un système d'impunité, n'est-ce pas, qui est très, très, très grave, qui est très touché dans ces États-là, notamment la République démocratique du Congo, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun et j'en passe. Je crois que cette ingérence, elle est là, en fait, elle n'est pas, ça ne fait pas bien, n'est-ce pas, d'avoir un autre État s'ingérer dans des affaires de l'autre, mais tout à fait. Là, on n'a pas de choix. Nous avons bien entendu, bien besoin de sortir de la pauvreté. Il y a des projets qui avaient été initiés il y a des décennies qui n'avaient jamais été complétés, tout simplement parce que cet argent, n'est-ce pas, qui avait été alloué à ce projet, comment est-ce que je dirais, n'est-ce pas, s'est retrouvé finalement dans la poche, n'est-ce pas, de celui qui était le gérant du projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si les Européens ou les Américains, par exemple, ont besoin de nous aider, parce que là, ils sont en train de nous aider, ils veulent bien avoir un résultat. Ils ne veulent pas seulement avoir un rapport de projet qui ne dit rien. On peut écrire 2000 pages de projet sur des rapports et, sans toutefois avoir réalisé quoi que ce soit. Et tout comme un bon père, qui a ses enfants, il doit bien s'occuper de ses enfants, il doit s'assurer que, n'est-ce pas, chaque fois qu'il lui paye l'écolage, que cet enfant aille à l'école. Et je crois que c'est pour ça que les Européens, n'est-ce pas, ils croient qu'il va mieux qu'ils s'ingèrent dans les affaires étatiques. Ce n'est pas une bonne chose, mais il ne peut pas faire autrement, c'est de notre faute en fait. Quand je dis notre faute, je parle de nous, les Africains.
Voilà, allons au quatrième sujet de notre tribune de presse. Vendredi 22 juillet, les journalistes congolais célèbrent la journée nationale de liberté de la presse. Quel état de lieu faire du métier ici en République démocratique du Congo à la veille des élections? John Ngomboa, aujourd'hui les journalistes célèbrent cette journée, mais que pensez-vous vraiment? Les journalistes sont-ils libres en République démocratique du Congo pour exercer leur métier?
Je crois que, à l'instar de la démocratie, la liberté d'expression et la liberté de presse au Congo démocratique est encore à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans une période, nous aussi, des médias, dans une période de transition entre deux points. Celui où il n'y avait pas de liberté du tout et celui où nous pensons avoir la liberté nécessaire pour l'exercice de notre travail. Et alors, dans cette évolution, nous sommes de temps en temps ballotté de part et d'autre. Il y a des moments où on se retrouve vraiment dans la suppression totale de la liberté d'expression. Et quand ça va bien, on a l'impression que, bon, nous sommes arrivés dans une démocratie où les journalistes peuvent s'exprimer sans crainte de se retrouver en prison du jour au lendemain.
Ouais. Mais rentrons un peu à ce moment précis. Est-ce que la liberté de journaliste pendant cette période de transition a-t-elle été remise en cause ou mise en danger par les animateurs des institutions?
Oui, nous prenons l'exemple du 30 juin. Et d'ailleurs, il y a la lettre que Reporters sans frontières avec Journaliste en danger a adressée au chef de l'État. Et entre autres citations, il y a par exemple le fait que plus on tend vers les élections, plus la répression des journalistes et, prend de l'envergure. Nous prenons le cas du 30 juin 2005 où les journalistes qui faisaient leur travail se sont retrouvés rabroués, malmenés et détenus. Tout simplement parce qu'ils étaient dans l'exercice de leur fonction. Je ne veux pas parler de moi, j'ai été dans le lot de journalistes qui sont retrouvés tout simplement parce qu'ils défendaient leurs droits, qui sont retrouvés en prison, détenus dans des cachots, tout ça dans des conditions sincèrement humiliantes. J'estime que jusque-là, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir dans les chefs des tenants du pouvoir en ce qui concerne la liberté dans l'exercice de la profession journalistique au Congo.
Mais si, effectivement, il faudrait plus de liberté pour le journaliste congolais. Mais est-ce que vous pensez aussi que le journaliste congolais se montre aussi responsable quant à la liberté qu'ils exigent nécessaire pour leur métier?
Mais je voudrais bien qu'on m'explique ce qu'on entend par responsabilité. Je voudrais peut-être que le journaliste se promène avec des ciseaux dans son cerveau pour qu'il puisse couper tout ce qui dérange. Moi, je pense pas. D'ailleurs, on constate que dans la plupart des cas, les journalistes congolais, en fait, il est, à mon avis, souvent en retard par rapport à l'actualité. Quand ils dénoncent certaines choses, les politiciens eux-mêmes avaient déjà pris le temps de les faire bien avant. Mais souvent, les politiciens ne sont pas arrêtés pour les propos qu'ils tiennent. Mais lorsque le journaliste reprend ses propos, alors là, C'est les journalistes qui sont fautifs.
Non, mais la responsabilité n'est pas seulement dans le fait de dénoncer des choses ou de révéler certaines informations, mais aussi la responsabilité se situe dans le au niveau de traitement. Est-ce qu'il faudrait s'élancer dans un traitement injurieux, dans un traitement diffamatoire de l'information? C'est là où on voit la responsabilité du journaliste.
Évidemment, je ne peux pas non plus accepter les dérives dans l'exercice de la profession.
Et particulièrement si on sait qu'on est dans une période post-conflit et toute déclaration, tout traitement d'information pourrait aussi raviver des crises et des conflits. Est-ce que ça serait responsable de travailler, d'adopter un traitement de l'information au sens de raviver les conflits, par exemple?
Vous savez, raviver les conflits, bon, je ne sais pas encore si les journalistes du Congo se sont lancés sur les pistes de la xénophobie, de l'ethnicisme, ainsi de suite. Mais en général, les journalistes sont condamnés ici pour des propos diffamatoires, ainsi de suite. Mais je sais qu'il y a déjà une procédure ici au Congo sollicitant la dépénalisation des délits de presse, notamment la diffamation. Parce que quand il y a diffamation, ça ne signifie pas que pour autant un journaliste devrait aller en prison. Ce n'est pas un délit commun. Moi, je voyais plutôt la responsabilité ici aussi en termes. La responsabilité du journaliste aussi rime avec la possibilité du journaliste de pouvoir accéder aux sources d'information. Souvent, nous, journalistes au Congo, nous avons un problème fondamental. Lorsque nous recevons une information, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir la vérifier. Parce que, en général, les sources d'informations concernées se ferment. Et alors là, on se retrouve avec un cas de conscience. Faut-il diffuser l'information que j'ai reçue sans l'avoir vérifiée ou faut-il la mettre dans les tiroirs et attendre les jours improbables où les personnes concernées pourront accepter que je puisse vérifier sa réalité. Alors là, les journalistes est vraiment ballotté, compte tenu du fait que nous vivons dans le contexte qui est le nôtre, nous travaillons avec les moyens qui sont les nôtres, et il est parfois difficile de faire un choix objectif sur cette question, quoi.
Quittons le studio de Radio Okapi pour l'Afrique du Sud, Hilaire Akolo, vous êtes journaliste à la radio Bouche. Ici à Kinshasa, les journalistes congolais célèbrent aujourd'hui la Journée nationale de liberté de presse. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique et au Congo particulièrement, les journalistes sont libres et en même temps responsables quant à leur métier?
En Afrique ou au Congo? En Afrique du Sud ou au Congo?
Au Congo particulièrement, mais en Afrique en général.
En Afrique en général, je ne crois pas que les journalistes ne sont pas libres. Ils ne le sont pas. En fait, je me rappelle il y a 13-14 ans, lorsque j'étais encore, je faisais mon stage d'étudiant, mon stage de journalisme à la télévision camerounaise, et j'avais assisté une scène très, très aberrante qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y avait un journaliste qui avait été assigné à faire une tâche. Il a fait son reportage par rapport à ce qu'il avait vu sur le terrain. Et puisque ça n'allait pas avec le courant politique de l'époque, on lui a demandé de rédiger l'article une seconde fois, et bien entendu, cette fois, en se basant uniquement de la doctrine du parti. Et c'est comme ça le journalisme en Afrique et dans nos pays africains, parce que quand on les accuse toujours, n'est-ce pas, de faire du mauvais journalisme parce qu'ils ne vérifient pas la source de leur information. Mais il faut savoir, parfois les gens n'est-ce pas, qui donnent les informations ont aussi d'autres contraintes. Par exemple, ils ne veulent pas avoir la fougue de leur patron ou bien de qui que ce soit qui leur a filé la mèche après plus tard. Parfois, ils ont besoin de protéger leur emploi et tout le reste. Ça fait donc que ça complique la tâche pour le journaliste. Comme mon confrère disait tantôt, faut-il bien garder l'information pour soi-même ou faut-il la diffuser? Et là, nous avons vraiment un problème de conscience. Si on sait que c'est une information qui affecte toute l'opinion, et on la garde, n'est-ce pas, dans un coffret, ça ne marche pas. Faut-il la diffuser? Une fois qu'on le fait, on dit voilà, qui raconte des blagues. Ça fait donc le journaliste en Afrique, en général, il n'est pas traité de la bonne façon. Et Il a, n'est-ce pas, toutes les difficultés à pouvoir faire son travail comme il se doit.
Vous
C'est
êtes...
différent, par exemple, en Afrique du Sud, n'est-ce pas, où tout le monde, quand il a sorti le président de la République comme ministre et député, n'est-ce pas, on a leur numéro de téléphone partout et on peut les contacter à tout moment lorsqu'on a besoin de vérifier un fait ou quoi que ce soit.
Vous êtes en...
Ici, au moins, nous avons un peu plus de liberté. Ouais.
Je disais, vous êtes en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on le sait, c'est aussi un pays qui sort d'une crise, donc vous êtes dans une période post-conflit. Mais comment les journalistes sud-africains se comportent-ils dans cette période où vous vivez une situation post-crise entre le noir et le blanc? Comment se fait justement le travail de journaliste dans cette situation difficile et très, très sensible?
Oui, en fait, c'est une situation qui est très sensible parce que même quand on parle de liberté, en fait, il y a même une crise qui s'est posée, n'est-ce pas, au Cap hier, parce qu'il y a M. Ngolo qui est, n'est-ce pas, le chargé de la communication du maire de Cape Town, qui a aussi un website, et il a écrit un article ici dans lequel il disait que les Noirs en Afrique du Sud étaient plus intelligents que ce qu'on appelle les Kalas, les métis, et que les métis étaient beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus en train de devenir des souleurs et tout le reste. Ça fait donc que ça a créé une situation très, très délicate, n'est-ce pas, au niveau de la presse, où il a fallu qu'on essaye de contacter M. Ngolo et de négocier avec lui parce qu'il fallait qu'on ait des informations, n'est-ce pas, de première main, pas de radeau. Et c'est comme ça. Bon, sinon, la seule chose qui nous facilite la tâche dans cet état de choses, c'est que tout ce monde est disponible. Et si on essaie de prendre contact avec une des personnes, n'est-ce pas, engagée dans le problème, et que la personne refuse de nous répondre, alors on le dit. On le dit que ce soit le président de la République ou le ministre, on dit voilà, monsieur le ministre a refusé de nous parler. Ça fait donc que, quelque part, on a un peu la tâche beaucoup plus facile là-dessus.
Mais est-ce que vous êtes aussi objet de poursuites, par exemple de poursuites judiciaires ou de poursuites des acteurs politiques qui sont en poste parce que simplement vous avez dit quelque chose qui n'était pas dans le sens de leur intérêt?
Tout à fait. Parce que nous sommes aussi sujets à ces poursuites. Ça se passe pas tout le temps comme ça. Mais généralement, lorsqu'il y a une poursuite judiciaire, il faut vraiment que le cas soit fondé.
Liberté de la presse en République démocratique du Congo, c'est le dernier sujet de cette tribune de presse. Ce fut aussi le dernier sujet de la dernière émission Dialogue entre Congolais présentée par notre confrère Jérôme Gongo. Jérôme Gongo est mort le 23 juillet 2004 après un brusque arrêt cardiaque. L'équipe de Dialogue entre Congolais dédie la tribune de presse de ce vendredi en sa mémoire. Une cérémonie est prévue ce vendredi au studio de Radio Okapi pour commémorer la mort de Jérôme. Elle commencera à 19h15, l'heure de début de l'émission Dialogue entre Congolais. Jérôme Gongo a conduit de main de maître cette émission pendant plus de 2 ans. Tous ses collègues de Radio Okapi sont marqués par son professionnalisme. Je laisse donc la place à cette voix dont vous vous souviendrez toujours de clôturer ce dialogue entre Congolais, le dernier de la semaine.
Merci Thérèse Kankou. Ce dialogue entre Congolais est terminé. William Lungamba était à la réalisation technique et à la mise en onde Sylvain Baoguery. Au revoir et bonne suite de programme sur notre station.
Okapi, Okapi. Okapi.